7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, les différences de salaire hommes-femmes. Un quart en moins, c'est ce que perçoivent en France les femmes à la fin du mois sur leur feuille de paye. C'est une moyenne nationale, tout secteur confondu, qui inclut les temps partiels largement détenus par les femmes. Mais à poste égal, à compétences égales, à temps de travail égal, eh bien, la différence persiste, malgré des années de législation, entre 10 et 15% d'écart que rien ne peut justifier. Alors pourquoi en est-on toujours là, alors que les procédures judiciaires se multiplient? Comment se situe la France aussi par rapport à d'autres économies développées ou moins développées? Faut-il par exemple apprendre aux femmes à mieux négocier leur salaire? Quelle est la situation, les voisins et les voisines, dans votre pays? Et évidemment, on attend vos témoignages, vos observations sur votre lieu de travail. Regardez vos feuilles de paye, regardez celles de vos collègues. Et puis appelez-nous très vite au 33 1 84 22 71 71. Vous pourrez dialoguer avec nos invités. Autour de la table, Rachel Silvera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, chercheuse associée au Centre d'économie de la Sorbonne, membre du réseau de chercheurs Marché du travail et genre, et surtout vous publiez Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire. Christiane Robichon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cadre dans une grande entreprise d'informatique, mais vous êtes surtout la présidente de la Fédération française Business and Professional Women, une organisation internationale qui regroupe des femmes tous secteurs confondus.
Tous secteurs confondus, dans toutes les villes confondues et toutes tranches d'âge confondues.
Et tous les pays.
Et tous les pays.
Voilà. La présidente actuelle de votre fédération.
La présidente actuelle est une australienne.
D'accord. Et peut-être l'année prochaine une.
Et alors les candidates pour lui succéder sont une béninoise, donc le continent africain, et une mexicaine, donc l'Amérique du Sud. Et le résultat sera connu au mois de mai 2014 lors de notre congrès international qui va se dérouler en Corée du Sud.
Vous êtes toutes concernées, en tout cas, mesdames les voisines, sur les inégalités salariales. 33 1 84 22 71 71. Je lis quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux. Beckett à Dakar nous dit « C'est bien évident que les hommes travaillent plus et mieux que les femmes ». Réponse d'une voisine, Kumba, dans la même ville, à travail égal, salaire égal, la réalité est tout autre, nous travaillons plus, nous recevons des miettes, ce qui n'est pas du tout honnête, messieurs. Pourquoi tant de discrimination? Travail égal, salaire égal, c'est inscrit dans les traités européens, Rachel Silvera, c'est vieux.
C'est très ancien, hein, donc pour remonter, c'est 1900, en France c'est 46, hein, et 1972 pour la loi sur l'égalité salariale, mais rappelons, c'est pas simplement, on y reviendra sûrement, un travail égal, salaire égal, qui est toujours pas obtenu. C'est aussi un travail de valeur égale, salaire égal. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut comparer le travail des unes et des autres.
Et oui, c'est là où c'est compliqué.
Et moi, je voudrais ajouter également, c'est qu'effectivement, il y a salaire égal, mais il y a aussi accès à tous les métiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même voir qu'il y a certains métiers qui sont encore très sexués.
On va y revenir. 33 1 84 22 71 71. Vous nous appelez tout de suite pour participer à l'émission sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Rachel Silvera, bon, j'ai donné quelques chiffres comme ça, mais quelles sont les réalités salariales entre les hommes et les femmes en France? Comment est-ce qu'on arrive aux chiffres qu'on vient de citer? Un quart en moins, c'est aussi le titre de votre livre.
Oui, alors, effectivement, il y a une partie des explications qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les pays, qui est liée à des causes qui s'expliquent par des variables que l'on dit quantitatives, mesurables, qui seraient peut-être même objectives, mais on peut s'interroger.
C'est ça, il n'y a pas un complot international contre les femmes au travail.
Il y a le fait, alors, surtout dans les pays occidentaux, plutôt dans les pays du nord de l'Europe, du temps partiel. Moi, j'insiste beaucoup, il y a une façon d'ailleurs de ne plus parler de ce sujet, c'est de comparer en termes horaires. Et comme ça, on neutralise l'effet du temps partiel. Moi, je dis, il faut mesurer, je suis pas la seule, hein, en termes mensuels. Parce que ce qui compte, c'est effectivement ce qu'on touche à la fin du mois. Et quand on voit que le temps partiel contraint se développe, eh bien, c'est une des explications, non seulement aux inégalités de salaire, mais au fait que les écarts de salaire ne se réduisent pas. Il y a de plus en plus de temps partiel et toute une frange de ce temps partiel est contraint. Ce sont des salariés.
Ouais, néanmoins, si on travaille moins d'heures, on gagne moins.
Oui, mais quand on prend l'exemple du nettoyage, hein, pour prendre au hasard une catégorie plutôt défavorisée, puis qui fait pas l'objet beaucoup de négociations, on s'aperçoit que, en général, dans les grandes villes, ce personnel très féminisé assure donc le nettoyage avant l'ouverture des bureaux, des 5h du matin jusqu'à 8-9h, puis une grande pause, et puis retravaille en fin de journée. Leur amplitude de travail correspond à celle d'un cadre sup. Ou d'une cadre sup. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte ce temps contraint des temps de transport, sachant qu'en général, ce personnel n'habite absolument pas sur place, vous l'imaginez, pas le temps de rentrer chez soi, ou alors on cavale. Est-ce que c'est bien normal de ne prendre comme indicateur que, là en l'occurrence, le SMIC est respecté, le SMIC horaire? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir travailler plus ne doit pas être entendu aujourd'hui?
Alors, le salaire, ceci dit, c'est le résultat de tout un parcours pour un individu. En dehors du temps partiel, qu'est-ce qui plombe le salaire des femmes?
Alors, la deuxième grande cause, c'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Hommes et femmes n'occupent décidément toujours pas les mêmes emplois, au nord comme au sud. On a des emplois très connotés d'un point de vue de leur origine. On dit des emplois à prédominance féminine ou masculine, ils sont pas par nature féminins, parce que ça bouge, c'est aussi une construction sociale. Mais on a encore donc des femmes qui sont globalement dans les emplois liés aux soins, à l'éducation, l'assistanat dans toutes les entreprises industrielles.
Donc beaucoup liées aussi au secteur public.
Donc
beaucoup
au secteur public.
À but non lucratif.
Hein. Notamment. Qui les protège en partie. Oui. Hein, qui les protège en partie. Donc c'est assez paradoxal.
Moi je voudrais rajouter effectivement, oui, BPW est à l'origine de la journée de l'égalité salariale au niveau mondial, l'Equal Pay Day. Et cette année, BPW France a souhaité faire un focus sur les femmes dans l'artisanat. Pourquoi? Parce que pour reprendre ce que vous disiez, Rachel, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre en termes d'orientation de femmes qui sont aujourd'hui orientées vers les métiers justement du bien-être, la personne et autres, et un certain nombre de métiers qui sont aujourd'hui porteurs de fortes valeurs ajoutées, mécanique de précision par exemple, où on sait que les femmes sont extrêmement performantes. L'orientation fait que ces métiers aujourd'hui ne sont pas proposés aux femmes et aux étudiantes.
Oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez dire par la place des femmes dans l'artisanat? Vous voulez parler des très petites entreprises?
On veut parler des très petites entreprises. Aujourd'hui, il faut savoir que globalement quand même, si on veut sortir du chômage, ça passe par la création d'entreprises. La création d'entreprises, ça veut dire que aujourd'hui, les personnes seront capables d'avoir des entreprises qui sont entre 1 et 10 salariés, puisque c'est ça les femmes dans l'artisanat et le métier d'artisan, et que dans beaucoup de pays, puisqu'on parle international, typiquement en Amérique du Sud, au Brésil, le nombre de femmes qui ont des entreprises dans cette tranche-là est importante. Elles ont leur propre autonomie.
Y compris sur des métiers d'hommes, vous voulez dire?
Qui sont aussi sur des métiers d'hommes.
À quoi vous pensez?
Typiquement, moi, je pense, j'ai une présidente de BPW à sa propre entreprise d'ingénierie de construction et elle vient travailler au mois de mai. Elle est en France. Elle vient travailler. Aujourd'hui, elle travaille pour des groupes, des grands groupes de construction que je pourrais citer
français. Donc là, pas de problème d'inégalité salariale, là, pour le coup.
Mais création de propres valeurs.
Oui, c'est ça. Encore, faut-il avoir une économie suffisamment dynamique pour ça?
Oui, alors, ce que je pense, c'est que il y a le fait d'accéder à ces emplois. Et ça, je crois qu'on n'en aura pas fini avec les écarts de salaire tant que les femmes, mais il faudrait aussi parler des hommes, ne pourront pas accéder à toute la palette des emplois. Ça, c'est une réalité, c'est important. Mais même lorsqu'elles sont cadres, parce que, par exemple, dans les pays occidentaux, notamment en France, il y a eu un progrès énorme de la féminisation de l'encadrement. On voit des femmes cadres. Hein, c'est 39% de cadres qui sont des femmes aujourd'hui. On est encore loin du compte par rapport à l'éducation. et à leur niveau de diplôme, mais tout de même, il y a des progrès. Sauf que, quand on regarde, entre un cadre et une cadre, on a des écarts de rémunération qui sont énormes.
À poste égal, compétence égale.
Alors, c'est jamais à poste. Alors, comment arriver justement à déterminer ce poste strictement égal? Quand on est dans une grille de la fonction publique...
Et un parcours égal, très difficile aussi.
Jamais on pourra établir, mais ma pauvre dame, voilà. Oui. On n'a pas le même parcours. Et souvent, le poste égal, c'est que théorique. Qu'est-ce que c'est un poste strictement égal? Oui, un journaliste, une journaliste qui ferait exactement le même boulot, on peut comparer. Je suis même pas sûre qu'on ait égalité stricte. Mais bon, après, à part ça, eh bien, quand on dit dans une entreprise, il y a tant de femmes cadres, elles seront plutôt affiliées, rattachées aux fonctions ressources humaines, marketing. Elles seront pas dans ce qu'on appelle le cœur de métier. Et moi, je m'insurge contre cette idée. Le cœur de métier qui serait la vraie valeur ajoutée des entreprises, eh bien, il ne peut battre que si ces emplois supports fonctionnent aussi.
Donc, il existe bien un écart salarial parfaitement injustifié. Entre quoi? Entre 10 et 15% d'écart, c'est ça?
Oui, sauf que quand on monte chez les cadres, dont je vous parle à l'instant, si on se met maintenant dans une salle de marché ou si on regarde donc dans les grands secteurs bancaires, dans les grands groupes internationaux, les écarts sont monstrueux parce que on ne parle jamais des bonus, des systèmes de primes qui sont plus ou moins.
Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? On a des femmes qui sont ultra diplômées là quand vous parlez des salles
tout
de marché,
fait,
des grandes banques. Alors qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on n'a aucune transparence sur les critères d'attribution de ces bonus. On sait que c'est lié à son carnet d'adresse, à son réseau, et là, eh bien, on
c'est
a
quoi, c'est
au
de la négociation
50%.
Au cas par cas.
C'est de la négociation, si je peux me permettre. Oui. Oui. Ce que vient de
oui,
dire
vous qui
Rachel,
êtes dans une multinationale informatique.
C'est de la négociation. Il faut savoir que à la sortie des études dans des grandes écoles, vous allez dans une multinationale. Honnêtement, les salaires d'embauche sont à peu près identiques. Aujourd'hui, on parle de 10% des cas. Ces 10% des cas, ils viennent d'où? Ben, tout simplement de la manière qu'ont les filles d'appréhender l'entretien d'embauche. Enfin, je pense qu'il faut que les femmes se mettent dans la tête. Parler d'argent n'est pas un tabou. Et un garçon, à la sortie de ses études, prendra le salaire, demandera la voiture de fonction, demandera les primes, demandera toutes les choses que vous venez de citer, Rachel. Et une femme sera tout simplement ravie d'avoir le salaire qu'on lui propose et n'ira pas plus loin. Et donc derrière, la démarche déjà à cet entretien d'embauche, l'impulsion est donnée.
Alors ceci dit, là, vous parlez de cadres supérieurs en disant que les écarts sont énormes, mais dans votre livre, Rachel Silvera, vous citez énormément de cas où les plaintes ont abouti, de femmes vraiment de petites conditions, hein, des femmes ouvrières dans l'aéronautique, d'ailleurs beaucoup dans des filières très masculines, d'ailleurs
exact.
Comme quoi ça ne leur a pas réussi, ou des femmes techniciennes supérieures, mais pas des grandes cadres. Je voudrais soumettre à vos commentaires, mesdames, quelques messages qui arrivent sur les réseaux sociaux. Adama Abidjan nous dit, il y a d'abord le niveau d'études qui souvent diffèrent et les femmes sont moins productives que les hommes. Il est en Côte d'Ivoire, Adama. Pour résoudre ce problème, les femmes doivent travailler autant que les hommes puisqu'elles parlent d'égalité des sexes et d'émancipation. Bon, niveau d'études?
Alors, le niveau d'études ne fait que progresser. Les filles réussissent mieux que les garçons depuis bien longtemps. Bien sûr qu'il y a encore des pays où c'est pas le cas, hein, comme en Afrique, mais le progrès est évident. Le problème, c'est qu'on s'y retrouve pas. À quoi bon, hein, c'est un peu décourageant ce que je vais dire, faire des grandes études si au bout du compte, vous n'êtes pas recruté en fonction de vos diplômes et que s'il y a ce qu'on appelle le déclassement professionnel, hein, vous allez accepter des boulots qui correspondent pas à votre diplôme.
Je vous lis un autre message qui nous est posté de Madagascar. Eva nous dit, c'est surtout à cause des risques qu'une entreprise prend en engageant une femme. Congé maternité ou urgence parentale, les idées reçues placent la femme comme étant responsable de ce genre d'événement. Vos commentaires, les voisines et les voisins, sur les inégalités salariales hommes-femmes au 33 1 84 22 71 71.
Double D, big four breasts on my baby. Triple A, couldn't wear the leather guy. For the girl, and I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. God almighty.
Lost Franco-Ocean chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Je vous citais, mesdames, le message de cette voisine de Madagascar qui nous dit, bah oui, il y a un problème avec la maternité et puis avec ce qu'elle appelle les urgences parentales. Alors, commentaires?
Alors, beaucoup de commentaires sur cette question. Parler de risque de l'entreprise, c'est vraiment la logique des économistes qui veulent démontrer qu'il y aurait qu'on expliquerait la discrimination par le fait qu'effectivement, dans le parcours d'une femme, il va y avoir un moment consacré à la grossesse et à la maternité. Mais rappelez que dans nos pays, c'est quelques semaines d'interruption et que surtout, ça se programme. Moi, j'ai vraiment envie de rappeler ça.
Quelques semaines, sauf si on prend le congé parental. Là, ça
alors
peut
là,
être
c'est autre
années,
chose,
hein.
On pourra y revenir. Ça peut aller jusqu'à quelques années, mais au niveau des droits et de la plupart des salariés, ce ne sont que quelques semaines qui sont prévisibles. Qu'en est-il du cadre qui part au ski et qui ne revient pas parce que il a un accident de ski, ça arrive régulièrement. On ne peut pas planifier. Là, ce type d'absence n'est pas programmable. Et puis surtout rappeler que ce n'est pas une absence comme les autres. Une société sans enfants, que devient-elle?
Et donc, qui paiera les retraites.
Il y a une responsabilité sociétale des entreprises à mieux prendre en compte la maternité et à reconnaître au 21e siècle que c'est un droit dont on a besoin, qu'il faut accompagner au contraire les femmes dans ce cheminement.
Je crois effectivement que le congé la maternité est quelque chose qui se programme dans une entreprise. C'est quelque chose en plus qui n'est pas une maladie, donc en fonction de votre état physique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des lois qui donnent un certain nombre de semaines de congé. Néanmoins, avec aujourd'hui les technologies modernes, le fait de pouvoir travailler à distance, ça permet, et je crois que c'est un message très important pour les femmes qui sont en congé maternité, c'est de ne pas se couper de l'entreprise.
Ça ne veut pas dire continuer à travailler. Les études montrent qu'en général, elles restent assez proches de l'entreprise, qu'elles restent en contact.
Mais ça, c'est très, très important. Et voilà, et c'est beaucoup moins pénalisant pour une entreprise, comme vous le dites très justement, qu'une longue maladie ou qu'un accident de ski, qui là, pour le coup, n'est absolument pas programmé, mais l'entreprise dans une situation à moment donné à risque parce qu'elle n'a pas planifié le remplacement. Donc c'est vraiment un faux problème.
La réalité, c'est que quand on a un bébé, eh ben on va passer, on va louper une augmentation, on va louper une marche par rapport aux collègues hommes. Non.
Alors c'est encore la réalité. La loi dit le contraire. C'est une loi européenne qui a été du coup introduite dans la loi française en 2006, qui prévoit qu'on neutralise l'effet du congé maternité
mais dans
sur
la réalité,
la rémunération.
C'est appliqué
alors,
ça ?
Dans la réalité, on a encore beaucoup de mal à le faire appliquer.
Je vous coupe la parole, Rachel, je vous en prie. C'est que typiquement, nous, on a demandé au ministère des Droits des Femmes, dans la nouvelle loi, le projet de loi d'égalité, d'inclure dans le fameux rapport de situation comparée, que les entreprises indiquent le nombre de promotions et d'augmentation de salaire des femmes qui rentraient de congé maternité. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'inégalité salariale, mais tout ça, il faut le mesurer très concrètement. Et voilà, et ça,
mais
c'est un indicateur.
Votre entretien d'objectif, vous avez quasiment pas été là de l'année. Comment vous valorisez votre travail sur l'année?
Alors, justement, il faut former les équipes pour que les salariés qui reviennent de congé maternité ne fassent pas l'objet de la même évaluation que les autres. C'est une année entre parenthèses. C'est pas tant les augmentations cette année-là qui m'ont posé problème. Il y a un coût, un léger coût, et puis il faut convaincre. Mais c'est plutôt au fur et à mesure ce qui va se passer lorsqu'il y aura des promotions, lorsqu'il y aura des possibilités d'avancement. Eh bien, on va laisser de côté les mères de famille, celles qui prendront du temps partiel notamment, et évidemment, a fortiori, celles qui ont du congé parental.
En 2010, Christiane Robichon, les Européennes devaient travailler 59 jours de plus que les hommes pour gagner autant. En quelques mots, comment c'est possible? Là aussi, on compte le temps partiel.
Bien sûr, on compte le temps partiel. Ça prend en compte absolument tous les métiers et dans le secteur privé. Et les chiffres, ce qui est intéressant, enfin pas intéressant, mais malheureusement de constater, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres n'évoluent pas forcément dans le bon sens. La journée de l'égalité salariale et Equal Pay Day en France aujourd'hui est le 7 avril. Ça veut dire qu'il y a 28% d'écart de salaire dans le privé. Quand on compare avec les pays européens, on s'aperçoit qu'en Allemagne, c'est exactement pareil. Enfin, dans tous les pays où BPW est présent, aujourd'hui, on constate un accroissement du nombre de jours où les femmes doivent travailler pour avoir le même salaire que les hommes.
En Amérique du Nord, par exemple?
Alors, en Amérique du Nord, c'est 23%. C'est 23%.
C'est-à-dire, c'est quasiment la même chose.
À peu près la même chose.
Au lieu d'un quart, c'est 23% d'écart, prenant en compte le temps partiel, encore
une fois. Tout à fait. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui au monde qui soit, en tout cas, en dessous de 20%.
Bon, Alors, on se cache pas derrière son petit doigt et on téléphone au 33 84 22 71 71 sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Rachel Silvera, Christiane Robichon, vous restez avec nous. Les chefs d'entreprise, vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire si le sujet est difficile chez vous, parce que bah, c'est vrai qu'il y a aussi les résultats économiques qui comptent. 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash. Et c'est sur RFI, bien sûr.